Aujourd'hui à Rencontre spirituelle, en ce 1er décembre, c'est l'anniversaire du décès, de l'assassinat de Charles de Foucault, l'un des personnages les plus remarquables du christianisme de la fin du siècle dernier, du début de ce siècle. Et il a tellement marqué de gens que je ne saurais ne pas lui consacrer toute l'heure. J'avais l'intention de consacrer mon heure à ce saint, ce bienheureux que l'on fête demain, le 2 décembre, Jan van Ruysbroeck, ou que l'on peut prononcer son nom à la française, Ruysbroeck. Paraît-il qu'en flamand, c'est Ruysbroeck. C'est un des mystiques les plus importants de l'histoire de l'Église. Il a été béatifié tardivement, c'est assez étonnant. Il a été béatifié le 9 décembre 1908, bien qu'il soit décédé le 2 décembre 1381. L'Église, parfois, tarde à reconnaître certains saints, et à d'autres moments, c'est très, très, très rapide. C'est aussi aujourd'hui, le 1er décembre, la fête d'une bienheureuse zaïroise. J'en parle très rapidement. C'est juste pour montrer, comme dans l'Église catholique, les saints viennent de tous les horizons, de toutes les conditions sociales, de tous les niveaux. Ça n'a aucune importance. L'Église essaie, tant bien que mal, de ne faire exception de personne, comme on dit, c'est-à-dire de ne faire de différence aucunement entre les grands et les petits. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous parle donc de la bienheureuse Marie-Clémentine Anuarite, qui est née en 1941, donc c'est tout récent. Hein? Elle est née au Zaïre, à Wamba, elle est morte le 1er décembre 1964, à 23 ans, quoi. Elle a été béatifiée il y a 10 ans, le 15 août 1985, à Kinshasa, en Afrique, oui. Elle est née de parents païens. Comme vous voyez, elle est née de parents païens, je dis bien. À Wamba, au Zaïre, elle se fit baptiser avec sa mère et sa petite sœur, alors qu'elle était encore toute jeune. Sa mère s'étant convertie. Et en 1959, à 18 ans, elle a fait profession chez les religieuses zaïroises de la Sainte Famille, et elle a été sacristine, tout simplement. Comme une certaine sacristine que je connais à la cathédrale, qui est très dévouée, à la cathédrale de Montréal. Elle est institutrice aussi au niveau primaire. Une vie simple, une vie de don. Et le 29 novembre 1964, donc 2 jours avant sa mort, pendant les troubles du Zaïre, il y a eu des troubles épouvantables, oh, il y en a eu souvent au Zaïre, elle fut transportée dans un camion, et là le capitaine Olombe a voulu en faire son épouse. Une de ses épouses. Et elle a dit, je préfère mourir plutôt que de commettre le péché. Elle était religieuse. Elle avait fait des vœux. Alors, avant de mourir, elle a dit à ce soldat, à ce capitaine Olombe, je vous pardonne, car vous ne savez pas ce que vous faites. Comme le Christ en croix, elle avait 23 ans seulement. C'est sa fête aujourd'hui. Une petite sœur africaine. Mais c'est aussi la fête, comme je vous ai dit demain, du bienheureux Jean de Ruysbroeck ou Jan van Ruysbroeck, un flamand, un belge, comme on dit aujourd'hui. Il est fêté aujourd'hui par les gens qui s'intéressent vraiment à la mystique. Et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui, car il y a tellement d'erreurs dans la mystique qui circulent partout, qui nous viennent de tous les horizons. Et lui en a fait des analyses et des études extrêmement poussées. On a publié, d'ailleurs, bon, c'est un livre très ancien qui est jauni par le temps dans ma bibliothèque, c'est publié en 1946 chez Aubier, grande maison d'édition, savante. Alors, Ruysbroeck, œuvre choisie, traduite du moyen néerlandais, c'est-à-dire de du néerlandais, du flamand, si vous voulez, que l'on parlait à cette époque, très longtemps, des siècles et des siècles. C'est présenté par M. Bizet, qui était un des des spécialistes de ce genre de spiritualité. J'avais acheté ça en 1948 et j'avais dévoré ça et je vois que j'ai pris des notes. Il y a des textes magnifiques. On a là-dedans surtout le royaume des amants puis les noces spirituelles. Ce sont des œuvres parmi d'autres de Reusbrook qui sont à lire par les spécialistes ou du moins les gens qui s'intéressent à ces questions comme moi qui ne suis pas un spécialiste mais je m'intéresse beaucoup à ça. Et alors donc, Reusbrook a exercé durant de longues années tout simplement des fonctions de vicaire, oui, de vicaire, dans une paroisse de Bruxelles. Et c'est seulement vers l'âge de 50 ans qu'il s'est établi avec deux de ses compagnons dans une sorte d'ermitage, où il a vécu la vie des chanoines réguliers, parce qu'il suivait la règle de Saint-Augustin. Comme, n'est-ce pas, Martin Luther, plus tard, est né en 1293, comme vous voyez, il y a 700 ans, dans le village de Reusbrook, ou Reusbrook, si vous préférez. Eh bien, notre Jan, ou Jean, a grandi au sein d'une société qui, dans son ensemble, ne faisait pas tellement honneur à l'Église. Hein? C'est un peu comme aujourd'hui. Et comme d'autres chrétiens généreux, il va prendre conscience des besoins de son temps, puis il va devenir un réformateur, un prêtre courageux. Oh, ça n'a pas entraîné beaucoup d'estime de certains de ses confrères qui ne menaient pas une très bonne vie. Alors, il va l'être d'une façon particulière. Dans ses ouvrages, il dénonce d'abord avec un courage incroyable les responsables des maux dont souffre l'Église. Il y crée des choses très audacieuses. Imaginez qu'il a été béatifié par cette même Église qu'il a tant critiquée. Il écrit, entre autres, je vous cite deux lignes, je pourrais vous en citer bien d'autres, terribles. « Même chez les dignitaires ecclésiastiques, dit-il, l'argent est roi. » Le pape, l'évêque, le prêtre sont devenus riches, ils n'ont guère souci des âmes. Ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Très loin d'être comme ça aujourd'hui. Je connais beaucoup d'évêques. Et je sais très bien que les papes, actuellement, ne s'intéressent pas du tout à devenir riches. Et nos prêtres, très rares, ceux qui pourraient chercher à devenir riches, car ils se seraient trompés de carrière, car je ne vois pas comment ils peuvent devenir riches avec les petites quêtes qu'ils font, où ils n'arrivent même pas souvent à payer le salaire maigre de leur bedeau, ou de leur concierge, ou des gens qui les aident et qui ont des familles et qu'il faut bien payer. Ils n'arrivent même pas à payer les taxes, les impôts, ou s'il n'y a pas de taxes ni d'impôts, les assurances surtout, le chauffage, l'électricité, etc. Les quêtes sont très maigres, très petites, et c'est pas là que les prêtres aujourd'hui deviennent riches. Notre Reusbrook a compris que la crise dans l'Église de son temps, et c'est peut-être aussi la crise dans l'Église de notre temps jusqu'à un certain point, c'est essentiellement et d'abord une crise de vie intérieure. Je crois que ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui, c'est la vie intérieure. Heureusement, il y en a. Il y en a de plus en plus. Nous avons des communautés au Québec qui sont remarquables. Remarquables, dont deux communautés françaises qui se sont installées non loin de Montréal et à Chersey. Il y a aussi à Baie-Comeau cette communauté de type charismatique, Myriam Bethléem, mais quantité d'autres monastères, les carmélites, les clarisses, les bénédictins, les cisterciens, les trappistes, et sans compter d'autres mouvements de vie intérieure en quantité que nous avons au Québec. Mais encore faudrait-il approfondir davantage. Et lui, notre Reusbrook, a été favorisé, il faut dire, de grâces mystiques assez exceptionnelles. Il voit dans l'union à Dieu le remède le plus puissant et le plus pressant. Même à son avis, c'est l'union à Dieu qui est le seul remède à cet état de choses. Il dit d'ailleurs que si les prêtres et les laïcs ne trouvent aucun goût à la religion, c'est parce qu'ils n'ont pas l'expérience de la prière universelle authentique, c'est-à-dire du sacrifice eucharistique et de la célébration ensemble de la prière des moines que l'on fait de plus en plus dans quelques paroisses à Montréal, comme chez les Pères du Très-Saint-Sacrement au métro Mont-Royal. Ils vont chercher au dehors d'eux-mêmes, dit-il, ce qu'ils ne trouvent pas au-dedans. Ceux qui ont faim de cette expérience de l'union à Dieu s'intéressent encore à la terre, non pour leur bien personnel, Mais pour y faire du bien, c'est là, dans cette intimité avec Dieu, qu'ils puiseront la force et les moyens d'honorer leur baptême et leur fonction pastorale, parce qu'il dit que l'union à Dieu entraîne à l'action. L'union à Dieu entraîne à l'amour des autres. Et alors, Jan de Ruysbroeck savait aussi que la mystique qu'il préconisait et qu'il vivait lui-même pouvait avoir ses contrefaçons. D'ailleurs, il a été obligé de combattre un mouvement spirituel très dévoyé à l'époque, qu'on appelait le libre-esprit. Les membres du mouvement du libre-esprit, qui étaient assez nombreux dans certaines régions, prétendaient imaginer, c'est incroyable, que l'union mystique des parfaits parmi eux, ça les dégageait de l'obligation des pratiques de la morale, et alors ils pouvaient être impurs dans leur corps autant qu'ils le voulaient, puisqu'ils étaient parfaits. Invraisemblable, invraisemblable. Et là, c'est surtout son œuvre écrite à Ruysbroeck qui a été retenue, et qui lui a valu le nom de Ruysbroeck l'Admirable. Sa pensée, son action, nous rappellent que l'union à Dieu authentique, là, la vraie, déborde toujours, d'une manière ou d'une autre, là, sur l'ensemble de l'Église. Pensez à un pape comme Jean XXIII. On sentait en lui une tendre union à Dieu, et ça rayonnait sur l'ensemble de l'univers, ou du moins de notre planète. Puisque maintenant on dit l'univers, on parle des galaxies de plus en plus. Et notre Ruysbroeck a quitté ce monde le 2 décembre, 1381. Dont certaines prières sont tellement belles que je veux commencer par une prière qui le situe. Elle est très connue. La spiritualité de Charles de Foucault, si elle était centrée sur l'humanité de Jésus, que l'on retrouve d'ailleurs chez les gens qui s'intéressent sérieusement et d'une façon mystique et profonde au Saint-Suaire de Turin et à la Sainte Face, qui nous rapproche profondément de l'humanité de Jésus, ceux qui lisent avec beaucoup de goût et de saveur les évangiles, et qui lisent c'est pas exactement des vies de Jésus, mais du moins, ça s'en rapproche très près, n'est-ce pas? Qui apprennent à aimer Jésus. Eh bien, il avait le sens de la profonde spiritualité chrétienne, qui est celle de la vénération de Dieu notre Père, en union avec Jésus, dans l'unité de l'Esprit Saint. Voici cette prière. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Celui qui a écrit ça, c'est Charles de Foucault, dont la vie est très paradoxale, c'était un jouisseur égoïste et hautain, qui est devenu un homme du désert au service des plus pauvres. C'était un incroyant qui s'est converti, qui est devenu un fou de Dieu, comme on dit souvent, Ce prêtre, qui meurt seul comme un ermite perdu au Sahara, est vite reconnu comme, chose étrange, le frère universel. Il a fait naître une nombreuse postérité de disciples qui, à son exemple, veulent encore aujourd'hui, en grand nombre, se donner à celui qu'ils appellent le bien-aimé frère et Seigneur Jésus. Et se donner aussi à tous les êtres humains, et d'abord aux plus abandonnés d'entre eux, aux plus éloignés de Dieu. Charles de Foucault est né un 15 septembre, en 1858, à Strasbourg, cette ville un peu allemande, où je suis allé, et à mon grand étonnement, il y a là un accent un peu allemand chez bien des Français. C'est qu'elle passe de l'Allemagne à la France et de la France à l'Allemagne. Il est né d'une famille aristocratique, très aisée, riche. À 5 ans, il a perdu successivement son père, qui meurt de tuberculose à Paris, et sa mère, qui meurt d'une fausse couche, elle, à Strasbourg, chez son père, le colonel de Morlaix. Vous voyez, d'un côté, c'est deux Morlaix, de l'autre côté, c'est deux Foucault et des familles riches. Le colonel de Morlaix s'occupe dès lors de Charles de Foucault et de sa petite sœur Marie. Ils sont tout jeunes. Charles a 12 ans quand éclate la fameuse guerre entre la France et la Prusse, la guerre de 1870, et après la défaite, le colonel de Morlaix, le grand-père, amène les siens en exil à Nancy, sont bien obligés de quitter Strasbourg, qui passe à l'Allemagne. Et c'est un choc pour cet enfant que le désastre qu'a subi la France, sa patrie. D'autre part, bien la République française s'est désormais installée. Au grand regret de cette famille, qui est très attaché à la monarchie. Alors le colonel de Morlaix est plus que faible envers son petit-fils Charles de Foucault. Il lui laisse faire ce qu'il veut. Et cet enfant, après une première communion très fervente, devient plutôt instable, capricieux. C'est un enfant blessé par son état d'orphelin, puis d'exilé, les deux. Et par ailleurs, bien, il subit l'influence de la pensée de Voltaire au lycée de Nancy. Il s'intéresse aux recherches et à la méthode expérimentale du grand savant Claude Bernard, aux travaux de Taine et de Renan, Ernest Renan. Il est d'une grande curiosité intellectuelle, mais il a une seconde mère, heureusement, sa cousine Marie Moitessier, qui a 9 ans de plus que lui et vers laquelle il éprouve un grand élan. Un grand élan possessif comme un enfant. Mais sa cousine se marie en 1874. Charles se sent à nouveau rejeté. Troisième rejet. Il abandonne l'Église, la foi, en 1874, à 16 ans. Comme tant de jeunes aujourd'hui, il devient ce qu'on appelle un agnostique, quelqu'un qui ne sait pas. Et il dit « Aucune preuve ne me paraissait assez évidente. » Alors il va demeurer 12 ans sans rien nier, sans rien croire. Alors là, il a décidé de faire carrière dans l'armée. Il prépare l'école de Saint-Cyr, très fameuse, où il entre en octobre 76. Et puis, dans les 2 années passées à Saint-Cyr, il travaille pas. Il s'amuse. Il a de l'argent. Il organise des parties, comme on dit. Et son grand-père, le colonel de Morlaix, meurt en 1878. Foucault, qui est encore jeune, dispose d'une fortune immense, mais immense. Ah, puis il faut lire les textes, je peux pas tout vous lire ça. Les fêtes qu'il organise, c'est absolument fabuleux. Il fait ériger des tentes, il commande de la nourriture de Paris et d'ailleurs, des pièces montées, il fait venir des prostituées de Paris dans des carrosses pour les faire coucher avec ses confrères dans l'armée. C'est absolument de la folie. Après Saint-Cyr, il passe 1 an à l'école de cavalerie Saumur, et il sort 87e sur 87. Vous voyez qu'il est dévoyé. Alors là, on l'envoie en garnison à Pont-à-Mousson. Il scandalise les officiers, puis la population même de Pont-à-Mousson par son luxe que je viens de vous décrire. Et en décembre 1880, son régiment est envoyé en Algérie. Et là, imaginez qu'il amène dans ses bagages une demi-mondaine, c'est-à-dire une prostituée de luxe qui s'appelle Mimi. Ça se fait pas des choses comme ça, il recommence sa vie de fête. Là. Alors là, l'autorité militaire en a assez, malgré ses noms de famille, de grande famille. On lui ordonne de cesser sa liaison avec Mimi. Il refuse, il démissionne, il se retire près du lac Léman à Évian pour y continuer sa vie facile. 3 mois après son arrivée à Évian, vous connaissez l'eau d'Évian, il apprend que son régiment est engagé dans des combats contre ceux que l'on appelle des insoumis dans le sud algérien. Alors, par fierté, tout à coup, il lui reste quelque chose dans le fond de son cœur, par goût aussi d'une aventure qu'il passionne. Alors, il demande sa réintégration dans l'armée comme simple soldat. Mais on lui rend son grade, parce que tout de même, c'est un Foucault, de Foucault. Alors, il part pour l'Algérie, se bat avec une fougue et un courage qu'on ne lui connaissait pas. Faut voir les photos dans un ouvrage de Jean-François Six, Une vie magnifique de Charles de Foucault, il en a écrit plusieurs, où on voit les photos. Il a l'air, quand il est jeune, là, il a 17, 18 ans, 20 ans, d'un gros bonhomme vicieux, abominable. Le regard est affreux. Mais là, tout à coup, à la suite de tout ça, là, son regard va devenir beaucoup plus pur. Il va se transformer. Sa bravoure lui vaut de reconquérir l'estime du chef de la famille Foucault, sa tante Inès Moitessier, c'est la sœur de son père. Elle le réintroduit dans le cercle de famille. Elle l'accueille aussi dans celui qui est fort important de ses relations. Alors, là, Foucault se sent participant d'un monde qui a un peu de bon sens. Et Foucault, dans l'expédition du sud algérien, ben, il a quitté sa vie de mollesse. Il a goûté à l'action. Il a surtout rencontré le désert. Ah, le désert ne lâchera plus. Êtes-vous déjà allé au désert? C'est fantastique, hein? Ces immensités, Foucault est entré désormais dans ce qu'on peut appeler une jouissance esthétique de l'ascèse, hein? Comme si on entre en religion. Ce qui, l'ascèse, c'est-à-dire le contrôle, c'est une libération. Et là, de tempérament trop individualiste et indépendant, il n'est pas fait pour l'armée alors, mais pour l'aventure solitaire. Mais par ailleurs, il est possédé de ce que Nietzsche, le grand philosophe allemand, qui a dit que Dieu était mort, mais il faut encore comprendre ce qu'il voulait dire, bien, il est possédé de ce que Nietzsche étudie au même moment, c'est-à-dire la volonté de puissance. Alors là, il décide de devenir explorateur, ce qui était à l'époque une vocation excitante. Et il veut aussi, par une percée au Maroc, où la France et l'Allemagne rivalisent, là, il veut prendre un peu de revanche sur la fameuse défaite de 1870 qui avait obligé sa famille à quitter Strasbourg. Et là, en 1883-84, il entreprend une reconnaissance au Maroc, c'est-à-dire, aller en avant-garde, quoi, pour reconnaître les positions ennemies. Et c'est toute une aventure au Maroc. En avril 85, il reçoit pour son exploit la première médaille d'or de la Société de géographie. C'est un exploit réalisé seul. Il ne doit la notoriété qu'à lui-même. Là, il prend courage. Il se transforme. Il réside chez Découverte. Il poursuit ses explorations. Et à Paris, il habite à deux pas de l'hôtel particulier de sa tante Moitessier. Puis là, il rencontre dans les salons de sa tante des hommes politiques, des savants. Il fréquente beaucoup un explorateur qui s'appelle Duvergier, qui est allé au cœur du Sahara, chez les Touaregs. C'est là qu'il va aller vivre plus tard. Et dans son appartement à Paris, bien, il vit à la façon des Arabes, parce qu'il est très marqué aussi par l'islam, hein, il a été marqué par la religion de ces gens, leur ferveur. Alors sa cousine Marie de Bondy l'entoure d'affection. Il est aussi travaillé par la foi musulmane, hein. Il l'a découvert au Maroc. Ça l'a vivement impressionné. Il dit « L'islamisme est extrêmement séduisant. Il m'a séduit à l'excès. L'islamisme me plaisait beaucoup. Avec sa simplicité de dogme, simplicité de hiérarchie, simplicité de morale. » Mais son attachement au Christ sera plus fort. Et chez sa tante, il rencontre un prêtre, qui est un vrai mystique. C'est l'abbé Huvelin. Celui-ci a 20 ans de plus que Charles de Foucault. Il est d'une grande intelligence. L'abbé Huvelin a refusé de faire carrière. Il est vicaire à Paris dans la paroisse des Moitessiers, la fameuse paroisse Saint-Augustin, paroisse bourgeoise. Il va sans cesse à la rencontre des âmes, dans un ministère spirituel, fait d'immenses accueils, puis d'une grande discrétion. C'est un prêtre merveilleux, comme on en a beaucoup plus qu'on pense, hein. Alors des agnostiques comme Littré le consultent. Et ce prêtre, l'abbé Huvelin, homme tout en nuance a horreur du volontarisme. Il est à l'opposé du caractère de Foucault. Et jamais il ne poussera celui-ci. Il laisse le temps faire son œuvre. Et un matin d'octobre 1886, Foucault vient se confesser à l'abbé Huvelin. Celui-ci le délivre et l'envoie communier aussitôt. Et Foucault, qui est un être épris d'absolu, dès qu'il se convertit, il veut aussitôt aller à l'extrême de la conversion. Il écrit « Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, écoutez bien ça, aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi. » Mais en fait, cette fougue est davantage encore un stoïcisme qu'une existence chrétienne. Et Charles de Foucault goûte une jouissance dans la force d'âme antique, la virtus, comme on dit. Il appelle cette vertu, il la recherche. Oh, il le dit lui-même, il cherche des leçons d'une vertu toute païenne dans des livres chrétiens. Mais la conversion profonde, là, vraiment, ne se fera pas en un jour, et l'abbé Huvelin a du mal à calmer l'ardeur intempestive de Charles de Foucault, à l'empêcher de devenir une espèce d'être intransigeant et intégriste. Il réussit à lui éviter une suractivité mysticiste. Oh, je vous disais qu'il était très riche. je reviens sur la question, parce que c'est très important. Hein. Les gens qui rêvent en prenant des billets de loto de devenir très riches, pensaient que cet homme, selon la rumeur, il avait une rente de 900 000 livres. Mais c'est exagéré, ça. En tout cas, on peut affirmer, je prends ça dans un ouvrage que je vous recommande, de Marguerite Castillon du Perron, Charles de Foucault, publié chez Grasset, il y a déjà un bon bout de temps. Je l'avais interviewé, cette femme, deux fois, à l'émission Rencontre à la télévision de Radio-Canada, et c'était d'une puissance, ces deux entrevues, admirables. C'est une mère de famille. Alors donc, c'est un immense ouvrage, c'est un ouvrage de plus de 500 pages, mais fascinant lire ceci comme un roman. Donc elle dit ici que on peut affirmer, en s'appuyant sur le témoignage de Raymond de Blic, son futur beau-frère, parce que sa petite sœur va épouser Raymond de Blic, la petite demoiselle de Foucault. Alors son futur beau-frère, et puis c'est aussi sur une enquête qui a été faite à l'école de Saint-Cyr, qu'il en possédait de 600 000 à 700 000 livres de rente annuelle. C'est ce qu'il recevait. Si l'on songe qu'avec 150 000 livres, seulement 150 000 livres, un ménage de trois enfants, père, mère, trois enfants, peuvent, en 1880, à ce moment-là, s'offrir une résidence parisienne luxueuse, une maison de campagne de bonne qualité, des voitures, des chevaux, quatre domestiques, plus un cocher, plus un jardinier. Il faut bien admettre que son sort de sous-lieutenant est largement assuré. Ça, c'est 150 000 livres. Lui, il en avait de 600 à 700 000 livres par année. Et malgré cette richesse immense, eh bien, Charles de Foucault, qui est un homme habitué à se proposer à lui-même des projets précis, à les accomplir coûte que coûte, se transforme. Sa vie de 1886 à sa mort ne sera que 30 années de chemin inattendu, de projets avortés et de rencontres imprévues. Charles de Foucault veut entrer dans la voie religieuse la plus austère. L'abbé Huvelin va le faire patienter 3 ans. Il veut l'introduire dans une spiritualité qui insiste sur l'humanité du Christ. C'est très important, hein? Mais comme s'il n'avait jamais existé sur la terre et comme s'il n'était pas ressuscité, il n'était pas quelqu'un. Et c'est ça que l'abbé Huvelin fait naître dans le cœur de Foucault et qui le change et le transforme. Et c'est en ce sens que l'abbé Huvelin l'envoie faire un long périple en Terre Sainte. C'est très important souvent d'aller en Terre Sainte. Moi, j'y suis allé 2 fois. Et de marcher dans les pas de Jésus, de s'asseoir, de lire l'Évangile, de prendre conscience, d'aller sur le mont des Béatitudes, de s'asseoir, c'est une petite colline, près de Capharnaüm, à Capharnaüm, de lire le cercle. Oh, les béatitudes, c'est tellement émouvant. Alors là, il va là de novembre 88 à février 89, et là, Foucault va découvrir la réalité miséreuse de Nazareth. Oh, comment Jésus était petit et pauvre, avec son papa, sa maman, avec Saint-Joseph, avec Marie. C'est une petite bourgade sale, hein? Il va désirer mener à la lettre la vie pauvre, abjecte, que Jésus a connue dans cette ville, durant 30 ans. Alors là, il entre, en janvier 1890, à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, et la pire trappe en France, dans l'Ardèche. Et puis, il souhaite pouvoir s'enfouir dans un prieuré très pauvre que la trappe a fondé en Syrie à Agbès. Il se fait trappiste. J'explique pour les gens qui se demandent ce que c'est peut-être qu'un trappiste. Ce sont des moines contemplatifs qui suivent la règle de Saint-Benoît dans toute sa rigueur, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité et d'oubli de soi et d'amour de Dieu. Et c'est là que Foucault va mener une vie cistercienne de trappiste de juillet 1890 à septembre 96. Il veut surtout, en allant aussi loin, faire à Dieu le plus grand sacrifice, dit-il, qui lui soit possible. Il veut quitter, comme il dit, pour toujours une famille qui faisait tout son bonheur. Et c'est pour lui un immense déchirement de quitter l'abbé Huvelin, puis sa cousine Marie de Bondy, qui sont en fait ses nouveaux parents. Et sa volonté extrême de sacrifice lui fait trouver trop douce la vie d'Akbès en Syrie. Il est très vite insatisfait. Il dit « Nous sommes pauvres pour les riches ». Il écrit ça à l'abbé Huvelin. Nous sommes pauvres pour les riches, mais pas pauvres comme je l'étais au Maroc, pas pauvres comme Saint-François. dès 1893, il voudrait une fondation plus conforme à la vie de Nazareth. Et en même temps, il souffre de ne plus être mis au rang des martyrs comme les Arméniens là, qui habitent dans la région et qui sont massacrés malheureusement par les Turcs musulmans. Alors, il refuse énergiquement les projets qu'ont sur lui ses supérieurs. Alors qu'il soit ordonné prêtre, devienne prieur d'Agbès, c'est ça qu'on voudrait qu'il fasse. Et on l'envoie en septembre 96 à Rome pour y faire sa théologie. Alors, il exprime son désir profond et au mois de janvier 97, eh bien, le père abbé, général des Trappistes, reconnaît sa vocation de Nazareth. Et là, c'est à Nazareth que Foucault veut vivre, la vie de Nazareth. Alors, il s'embarque pour la Terre Sainte. Il arrive à Nazareth en mars 1897. Et savez-vous ce qu'il fait? C'est assez extraordinaire. Il se présente au couvent des Clarisses de Nazareth. Je suis allé visiter ça où il a vécu très humblement. C'est extraordinaire, c'est très émouvant. Il y devient l'homme à tout faire. Lui, cet homme si puissant, si riche, il devient le domestique. Il fait les courses en ville. Il s'occupe du jardin des sœurs des Clarisses. Nous en avons des Clarisses au Québec. Il faut les voir, hein? À Valleyfield en particulier. J'ai déjà fait un beau film sur elle, alors que j'ai aimé faire ce film il y a 25 ans. Et l'abbesse des Clarisses de Jérusalem, une femme très brillante, a eu vent de la sainteté de cet homme. De cet homme, ce domestique. Elle le fait venir à Jérusalem. Il y va à pied, sous la chaleur, il arrive là épuisé. Elle le scrute. Elle reconnaît sa vocation de fondateur d'un humble groupe de frères menant la vie de Nazareth. Mais il n'y en aura jamais des frères, le pauvre lui. Elle le persuade de devenir prêtre pour pouvoir réaliser son projet. Alors en août 1900, après 3 années de vie en Terre Sainte, il rentre en France, dans sa trappe où il était rentré comme trappiste à Notre-Dame-des-Neiges. Là, on l'accueille pour sa préparation au sacerdoce. Et puis, l'année suivante, le 9 juin 1901, il est ordonné prêtre dans l'abbaye. Son statut est celui de prêtre libre du petit diocèse de Viviers, où se trouve installée justement la trappe de Notre-Dame-des-Neiges. Et il va avoir là 43 ans. Et pendant les 9 mois où il s'est préparé au sacerdoce, Foucault a mûri son projet. Là, il souhaite mener la vie de Nazareth, comme Jésus. Mais non plus en Terre Sainte, mais au Maroc, chez les musulmans. Là où Jésus n'est pas connu. Là aussi où il a des chances peut-être d'être martyr un jour, il s'installe donc à Beni Abbès, un oasis aux portes du Maroc, en espérant pouvoir bientôt pénétrer dans ce pays, qui lui est interdit, hein. C'est défendu d'entrer là. Quand il y était allé pour faire son expédition de géographie, il s'était fait juif, et il avait été aidé par un admirable rabbin, pauvre rabbin Mardochée, un pauvre homme qui a risqué sa vie pour sauver la vie de Foucault plusieurs fois. Et il était avec des Juifs. Les Juifs étaient acceptés par les musulmans à cette époque. Et là, eh bien, il se trouve un point de passage où les caravanes circulent, hein, qui vont au Maroc puis qui en reviennent. Alors il est placé entre la population puis une garnison française, et puis il veut être une passerelle entre tous ces gens-là. Mais surtout, il veut mener une vie très pauvre. Il veut être au service des plus pauvres. Et 3 mois après son arrivée, il écrit à sa cousine, Madame de Bondy, « Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère universel. » Et c'est le nom qu'on va lui attribuer pour toujours. La population appelle sa misérable petite bâtisse la Kaoua, c'est-à-dire la fraternité. Il mène là une existence contemplative que le désert accentue. Il écrit « On a des horizons presque immenses, se perdant dans ce beau ciel du Sahara qui fait penser à l'infini et à Dieu qui est plus grand, Allah Akbar. » Néanmoins, il est proche des réalités. C'est un contemplatif actif. Dès son arrivée, il aperçoit que l'esclavage existe. Et écoutez bien ça, et que l'esclavage est toléré par les autorités françaises. C'est inconcevable, hein? Liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce qu'ils en font, les Français, à cette époque? Alors, Charles de Foucault s'insurge contre ce fait inadmissible. Là, il multiplie les interventions à Paris, et n'oubliez pas qu'il est Charles de Foucault, c'est un nom, hein. Il écrit des choses épouvantables, il écrit « Malheur à vous, hypocrite !» Vous qui mettez sur les timbres et partout liberté, égalité, fraternité, droit de l'homme, et qui rivez les fers aux esclaves, vous qui condamnez aux galères ceux qui falsifient vos billets de banque, et qui permettez de voler des enfants à leurs parents et de les vendre publiquement. Mais il va réussir, il va obtenir satisfaction après 3 années de lutte. Il condamne aussi les impôts exorbitants de certains membres de l'armée française, hein, qu'il décrit d'ailleurs comme une armée d'occupation, semblable aux anciennes légions romaines là, qu'on trouvait en Palestine au temps de Jésus, hein, et qui faisaient payer de l'impôt. Souvenez-vous que saint Matthieu avait été un percepteur d'impôts. Hein. C'était pas très apprécié par la population juive, notre pauvre Matthieu. Alors, il ne voit à l'armée française qu'un seul rôle positif, c'est celui de protéger les pauvres paysans des pillards qui venaient continuellement les appauvrir. Hein. Et c'est pour ça que les paysans musulmans aimaient bien les Français et qu'ils rêvaient que les Français restent là souvent. C'est pour ça qu'il y a eu des grandes difficultés quand les Français sont partis. À l'ouest, le Maroc, lui, demeure strictement fermé. Hein. C'est au sud de l'Espagne, le Maroc. Hein. Foucault regarde alors vers le sud, vers le Hoggar, où les populations touareg n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Il fait 2 voyages dans le sud, puis en août 1905, il s'installe à Tamanrasset, au cœur du Sahara. Là, il construit un ermitage semblable à celui de Beni Abbès, aux portes du Maroc. Et c'est là qu'il va passer l'essentiel des 11 dernières années de sa vie. Et c'est là qu'il va réaliser ce qu'il appelle l'apostolat de la bonté et de l'amitié. Il dit qu'il veut être l'ami de tous, bon ou mauvais. Alors là, il apprend la langue des Touaregs. C'est un savant, hein, c'est un cerveau. Il était brillant. Hein. Alors il apprend la langue des Touaregs avec une ardeur intense. Il étudie jour et nuit. S'il prie et accueille beaucoup à Tamanrasset, Foucault consacre une bonne partie de son temps à des travaux de linguistique. Et dans les 10 dernières années de sa vie, il cherche de toutes ses forces à attirer au Sahara des chrétiens de bonne volonté qui viendraient, oh il rêve, hein, qui viendraient s'y établir comme petits commerçants honnêtes. Des vrais chrétiens honnêtes, des laïcs, là. Ou encore des infirmières qui mèneraient une vie évangélique très simple parmi ces musulmans. Mais il reste seul jusqu'à sa mort. Aucun disciple religieux ou laïque ne le rejoint. Ses projets de fondation échouent donc totalement. Il fait bien 3 courts voyages en France. Il y va en 1909, 1911, 1913, dans l'espoir de trouver des disciples. Il va mourir en 1916. Il se propose de venir en France plus longuement après la fin de la guerre, 14-18, pour faire aboutir ses projets, mais évidemment, il va mourir avant et il ne reverra jamais sa ville natale de Strasbourg. Ce qui était l'un de ses désirs parce qu'il aimait sa France. Les 2 dernières années sont marquées à la fois par la guerre, ses camarades d'armée sont au front, et par un enfoncement plus au sud encore dans le Hoggar. Il devient de plus en plus Touareg parmi les Touaregs. Il se fait du pays, comme on dit, avec une certaine joie d'ailleurs. Il est content de se trouver au milieu de ces Touaregs qui ont assassiné l'un de ses amis, Maurès, qui était allé explorer le Hoggar. Il dit, « Je suis parmi ces peuples qui ont tué mon ami Maurès, le vengeant en rendant le bien pour le mal, hein, comme le pape Jean-Paul II. » La vengeance du chrétien, c'est quoi? C'est de rendre le bien pour le mal. Si on savait donc pardonner à tous ceux qui nous offensent, qui nous insultent, qui nous font du mal, comme la terre changerait, nous chrétiens, nous la changerions. Hein? Dans le Hoggar, à la Sécrène, il installe un nouvel ermitage à 2700 mètres. C'est haut, ça. 2700 mètres d'altitude. C'est un lieu désert, extraordinairement beau. Un enchevêtrement d'aiguilles sauvages et étranges, écrit-il. C'est une vraie douceur, dit-il, d'habiter la Sécrène avec sa nature si belle, ses grands horizons et son grand vent. La Sécrène est pour lui un lieu de contemplation. Mais c'est aussi un lieu de passage obligé des caravanes entre le nord et le sud, et donc un lieu de rencontre. Il se partage entre la Sécrème et Tamanrasset. Et là, la guerre a des répercussions sur la région, qui devient plus instable, soumise à des razzieurs, les razzias dont je vous parlais tout à l'heure, et pour protéger les pauvres, eh bien Charles de Foucault a transformé son ermitage de Tamanrasset en fortin, un fort, hein, où l'on peut venir se réfugier. Il écrit « Je pense, en voyant mes créneaux, il avait fait des créneaux comme un fort, aux couvents fortifiés et aux églises fortifiées du Xe siècle. » Il en existe encore en France, hein, dans le sud de la France surtout. Et là, le vendredi 1er décembre, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Le vendredi 1er décembre 1916, il y a 79 ans, à la nuit tombée, une troupe d'une quarantaine de razzieurs entoure l'ermitage. Et là, un traître attire Foucault au dehors. Et tandis que les autres pillent le fortin de Charles de Foucault, mais un jeune garçon de garde, il est tout jeune, je crois qu'il a 17 ans, mais tout à coup, les méharistes arrivent et là, le jeune garçon prend peur. Il tire sur Foucault qui meurt aussitôt. Foucault est ainsi assassiné à l'aube de ce 20e siècle. La balle lui rentre derrière l'oreille et lui sort par un œil. Il est mort instantanément. Et là, c'est à l'aube du 20e siècle. Ce 20e siècle où tant d'hommes vont mourir comme lui, victimes innocentes, otages, dans les multiples conflits là, qui vont envahir le siècle. Il meurt seul, comme le grain de blé qui tombe en terre. Charles de Foucault avait une grande dévotion à la Sainte-Face, au Saint-Suaire de Turin. Énorme dévotion à la Sainte-Face. Au Sacré-Cœur aussi. Il écrit quelque chose qui est très intéressant à lire dans cette série d'émissions sur les vies des saints. Puisque toute la perfection consiste à aimer et à imiter notre Seigneur, écrit Charles de Foucault, prendre parmi les saints qui ont écrit l'un des saints pour qui nous avons le plus de sympathie, l'un de ceux qui nous semble avoir le plus aimé, le mieux imité Jésus, en faire notre ami intime, nous mettre sous sa direction, nous imprégner de ses pensées, de manière à penser peu à peu comme lui, apprendre sa manière de juger, de voir, sa manière, son esprit. Et pour cela, le lire, le relire, nous en faire des extraits, les transcrire, et ne lire que lui, la Sainte Écriture et des vies de saints, ne pas disperser nos lectures, et en fait de livres, n'en lire que de trois sortes, les Saintes Écritures, les écrits de saints, leur vie. Nos lectures doivent se diviser en trois. La Sainte Écriture, dont il ne faut pas lire de longs passages à la fois, d'ordinaire au moins, mais au plus un demi-chapitre ou un chapitre, mais dont il faut lire plusieurs fois par jour des passages et sur laquelle il faut faire toutes nos méditations. en prenant comme sujet ordinaire les saints évangiles ou parfois aussi les psaumes. Je pourrais continuer, mais j'insiste là-dessus, c'est que si, quand on va à la messe tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? On fait la lecture des évangiles, de l'évangile du jour. Kinizio, il lut en même temps que le pape, les évêques, les prêtres, les moines, les moniales, les laïcs du monde entier qui vont à la messe ce jour-là, ou qui célèbrent la messe ensemble, lisent cet évangile et on peut le méditer dans le corps mystique du Christ. C'est merveilleux que d'aller à la messe tous les jours pour méditer les Saintes Écritures à l'exemple de Charles de Foucault. Et lire des vies de saints. C'est très important. J'en ai lu toute ma vie avec une joie constante. Il n'y a rien comme de lire des vies de saints. Il parle aussi de l'union à Dieu le Père. C'est pour lui extrêmement important. Union à Dieu le Père. Je me propose d'entretenir en moi la volonté de me donner et d'être uni à Dieu le Père comme son enfant. Tout plein de religion envers sa majesté infinie, de tendresse et de confiance filiale envers sa paternité, de soumission et d'abandon à sa volonté, de dévouement à sa gloire et à son amour, en union avec Jésus, Fils éternel de Dieu, et avec Marie, sa fille bien-aimée, pour participer le plus que je pourrai aux dispositions filiales de Jésus et de Marie envers lui. C'est une très belle spiritualité sous la conduite de l'Esprit-Saint. Il a écrit d'ailleurs de très belles choses sur la prière. Très, très belles choses sur la prière. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez. Est-ce aux apôtres seuls que vous dites ceci, mon Dieu? N'est-ce pas aussi à moi? N'est-ce pas ce que vous me dites à certaines heures, le jeudi soir, par exemple? C'est le jour où Jésus a créé, si on peut dire, l'Eucharistie. Le jeudi soir, par exemple, où il vous serait si doux qu'autant que me le permet l'obéissance, je passe sinon toute la nuit, du moins un certain temps à veiller avec vous, comme vous avez appris à le faire à la bienheureuse Marguerite Marie. J'ai eu autrefois, mon Dieu, cette habitude de prier chaque jeudi soir, quelque temps en union avec vous, lorsque vous étiez à Gethsémani, me transportant par l'esprit en cette nuit de douleur. Je l'ai perdu, hélas, comme d'autres bonnes habitudes. Faites-les-moi reprendre, mon Dieu, autant que me le permettra l'obéissance. Disposez les cœurs de mes supérieurs à me laisser faire cet acte d'amour et faites-le-moi faire et bien faire. Oh mon Dieu, faites-moi vous aimer. Oh mon Dieu, faites-moi vous aimer. Faites-moi vous regarder sans cesse et vous prier sans cesse. Vous qui à tous les instants de votre vie m'avez regardé, avez souffert pour moi. Vous que tous les instants de ma vie peuvent consoler, tant vous m'aimez. Oh mon Dieu, c'est à tous les moments que vous me criez, levez-vous, priez, car en m'aimant et en me regardant à tous les moments de ma vie, de tous les moments de la vôtre, vous m'obligez à vous regarder, à vous dire que je vous aime, que je vous adore, à tout moment de mon existence. Puissais-je y être fidèle, mon Dieu? Je vous le demande pour moi et pour vos autres enfants. Tant de beaux textes dans la vie de Charles Foucault. Des textes grandioses, extraordinaires. On n'en a pas fini de lire toutes ces choses, absolument admirables, que l'on retrouve dans les œuvres de Charles de Foucault publiées aux éditions Nouvelle Cité dans la collection Spiritualité. Oh, je les ai tous, comment m'en priver? Je vous en signale quelques-uns. L'Esprit de Jésus. Ce sont des méditations de 98 à 1915. Puis il y a aussi Petit Frère de Jésus, qui sont des méditations de 97 à 1900. Puis Voyageurs dans la nuit, des notes de spiritualité, ça de 1888 à 1916. Ça couvre toute sa vie. Oh, il y a aussi, chez Beauchesne, Contemplation des textes inédits, dont je viens de vous lire des prières. Des choses absolument admirables. Mais ce qui est important, c'est peut-être de se rendre compte combien Charles de Foucault insistait sur l'Eucharistie. À 29 ans, Charles de Foucault a accompli son pas décisif. En un seul jour, sa vie est bouleversée, écrit Michel Carouge dans Une très belle vie de Charles de Foucault. Lui, qui depuis 10 ans ne participait plus au sacrement, bien il vient chaque jour à la messe de l'abbé Yvelin, il se confesse chaque semaine, il communie presque tous les jours, c'est de là que vient sa richesse. Peut-être n'oserait-il pas le faire de lui-même, mais le prêtre l'y appelle avec instance et joyeusement il accepte. Est-ce que je peux me permettre, moi qui ne suis pas prêtre, de vous inviter à faire de même? On y puise, comme dit Michel Carouge, une paix inconnue. Mais rien qui ressemble au confort spirituel. Hein? Rien qui... C'est pas le confort spirituel. C'est la démarche. Il est vrai que la monstrueuse puissance de l'habitude pousse sans cesse les chrétiens à s'endormir, écrit Michel Carouge. Mais loin que ce soit l'effet de leur foi, c'est la mesure de leur manque de foi. Et la vraie foi brûle, brûle comme le buisson ardent. Et la vie de tous les saints en est la preuve incandescente. Ah, si nous étions des saints.